Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Pierre Rondeau, l'économiste, la militante associative Lumière Laprès et le journaliste Fred Hermel. Dans un instant, eh bien, on vous demandera de répondre à cette question. Faut-il instaurer une taxe spéciale pour les SUV? C'est en tout cas l'idée de la mairie de Paris. Et on attend bien sûr vos réactions au 32-16. Il y aura bien sûr RMC Sondage pour vous vers 14h30. On va tenter d'aider Jessica. Elle est maman célibataire de 7 enfants et elle attend désespérément sa pension alimentaire. Et puis on terminera avec les immanquables. Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Il y a quoi par exemple?
On parlera notamment des demandes du jour, les demandes de PMA qui se multiplient après le vote de la loi en septembre 2021. On a des chiffres.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite à l'idée du jour. Et c'est celle de la mairie de Paris qui envisagerait d'instaurer une taxe spéciale sur les SUV. Le but, faire rentrer de l'argent dans les caisses, évidemment, tout en se donnant une image écolo. Concrètement, ça fonctionnerait comment, Rémi?
Alors, en tout cas, l'idée, elle revient de plus en plus souvent dans la bouche d'élus de la majorité. Au départ, il y a le besoin de trouver de nouveaux financements pour le développement en cours, de nouvelles lignes de métro, la prolongation des lignes existantes et le développement du tramway, notamment. Des besoins qui se chiffreraient à 1,5 milliard d'euros par an, financé en partie par la ville de Paris à hauteur de 6%. Et parmi les idées, donc, celle notamment défendue par David Béliard, c'est le maire adjoint écologiste de Paris en charge des mobilités, d'une taxation sur l'achat des SUV. Elle répondrait selon lui au principe de pollueur-payeur. La proposition consiste plus précisément à taxer les modèles dont le poids est supérieur ou égal à 1,4 tonne, en plus du malus gouvernemental qui existe déjà, qui est entré en vigueur cette année. Mmh. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un véhicule de plus de 1,8 tonne, mais à partir de 1,8 tonne, chaque kilo supplémentaire vous coûte 10 euros. Ah bon ? Le même David Béliard, il y a quelques années...
C'est seulement 2% des véhicules.
Oui, oui, tout à fait. Mmh. Le même David Béliard, il y a quelques années, avait déjà proposé, il ne l'a pas oublié, je pense, de voir si l'on ne peut pas, par exemple, intégrer des critères comme des critères de poids sur la question du prix du stationnement. Je pense que
mais
ça aussi, non, ça va faire réagir.
Mais qui connaît le poids de sa voiture? Enfin, excusez-moi.
Ah bah, tu l'as sur ta carte grise.
Oui, oui, enfin d'accord. Enfin, moi, je ne savais pas, pardon Rémi, qu'on pouvait connaître
le poids. Ta voiture?
Oui, je viens. Excusez-moi, je viens d'acheter une hybride.
Donc, une hybride, pardon. Oui, mais une quoi?
Bah, une hybride, une très bien.
Enfin. Oui, un petit SUV.
Oui, un tout petit.
J'ai regardé.
Mais je voulais pas que ce soit un SUV.
J'ai regardé. Et bon, on peut le dire, on peut donner la marque. C'est une Mini Cross Country, c'est ça? Hybride. J'ai regardé. T'es juste en dessous.
Ah bah tu
vois. À 1,390 tonnes, à 10 kilos près.
Je fais du bien à la planète. Faut-il taxer les SUV aujourd'hui en France? Tiens, Lumière Laprès.
Alors déjà, je pense que la conversation pour les grandes villes et le reste de la France, c'est pas la même.
Et pourquoi?
Avoir besoin d'une voiture quand on habite dans Paris-Centre, c'est un débat. Je peux entendre quand on est en situation de handicap ou qu'on a beaucoup d'enfants ou qu'on a une phobie du métro, mais enfin, on est quand même dans une ville extraordinaire ici qui nous permet d'aller d'un point A à un point B en transport en commun pour pas trop cher. Facilement.
Aujourd'hui, il y a des grèves. Tiens.
Oui.
Ah bah c'est
non,
super.
Mais d'accord, mais enfin, la grève, mais c'est pas tous les jours.
Hein. Mais d'accord,
oui,
c'est
voilà.
Pas tous les jours. Et il y a
donc,
parfois
en fait,
des trajets, je suis désolée.
Par ailleurs, moi, suis venue en transport ce matin malgré la grève. Donc, bon, il y a des métros.
Mais attends, pour toi, déjà, parce que tu travailles à des heures décentes, on va dire, mais il y a des gens qui ne travaillent pas à des heures décentes.
Je suis d'accord.
Et parfois.
Je ne suis pas sûre que les gens qui travaillent de nuit aient assez d'argent pour s'acheter un SUV, par ailleurs.
D'accord, mais certains. Bah, si c'est une Dacia et la voiture la plus vendue en France, c'est la moins chère et c'est un SUV. Et parfois, si tu es par exemple en proche banlieue et que tu travailles dans Paris, tu peux mettre une heure en transport.
Je suis d'accord.
Et tu peux mettre 10 minutes en voiture.
Donc, voilà.
Je suis d'accord. Alors, donc, il y a d'abord la question de est-ce que c'est intéressant d'avoir une voiture à Paris? Je pense qu'il y a un débat. Ensuite, quelle voiture? Donc, en fait, pardon, mais quel est l'intérêt d'un SUV quand tu habites à Paris Centre?
C'est pas toi qui vas dire aux gens s'ils ont un intérêt ou pas.
Je peux dire aux gens que leur voiture, s'ils achètent un SUV, pollue beaucoup plus que s'ils achètent une petite citadine. Sauf qu'il est électrique, mais attends, je précise quand même que les hybrides et les électriques seraient exonérés de cette taxe, hein, quand même, il faut le dire, parce qu'on peut l'oublier. Franchement, pardon, mais il y a un moment, quand il y a une pollution de l'air énorme due au SUV, bah, ça me concerne, parce qu'en fait, oui, j'évolue dans cette ville parfois. Alors, moi, j'habite à la campagne. Par ailleurs, je pense que...
Les petites Clio diesel, ça ne te gêne pas, ça, tiens.
Bah, non, ah, moins. Bon, mais attends, super. Parce que déjà, quand on parle de pollution, il faut voir de quelle pollution on parle, et ça, c'est très important.
Bon, il y a un truc sur la pollution.
Ouais, mais en fait, si, quand même, pardon. La pollution engendrée, elle est de la création de la voiture à sa fin d'utilisation.
C'est là que la différence se fait.
La différence, elle se joue là, parce que si tu as une vieille... C'est pour ça que moi, je suis largement opposée aux ZFE, et on pourra en reparler, parce que ça pénalise les pauvres. Et qu'il vaut toujours mieux emmener ta voiture jusqu'au bout plutôt que d'en racheter une nouvelle en termes de pollution et de gaz à effet de serre au global. Après, il y a un sujet sur la pollution de l'air, là maintenant, tout de suite.
Bon.
Mais voilà, quand même, et je finis par un chiffre, quand même, que c'est les SUV et la pollution qui sont entraînées par les SUV, c'est la deuxième source de gaz à effet de serre en augmentation en France.
D'accord.
Deuxième source d'augmentation la plus importante des gaz à effet de serre en France. Et donc, c'est quand même pas anodin. Et je dis pas aux gens qu'ils doivent plus avoir de voiture. Je dis juste que quand on habite à Paris-Centre, on n'est pas obligé d'avoir un 4x4 ou un SUV, en fait. Pardon. Mais c'est un choix.
Une Renault SUV, par exemple. Voilà, et c'est pas un SUV, c'est pas juste un Porsche Cayenne, enfin.
Non, mais je suis bien d'accord, mais il y a quand même une question de poids. Et par ailleurs, quand t'as les thunes de t'acheter un SUV, bah t'as peut-être la thune de payer pour le problème que ça crée collectivement aux gens qui habitent dans ton espace.
Mais c'est bien de dire aux gens en fait ce qu'ils doivent faire de leur argent. Ouais.
Ça s'appelle l'État. Pardon, mais quand t'as des impôts, c'est l'État qui te dit ce que tu fais ton argent.
Mais déjà, quand t'as un SUV, t'es taxé à la base, et ça c'est parfaitement normal.
Quand t'as des thunes, t'es taxé aussi.
Oui, mais tu sais, quand t'es en classe moyenne et que t'en as pas beaucoup, t'es taxé aussi.
Je suis désolé, moi je n'ai pas d'enfant. Mais d'accord. C'est une mesure anti-famille. Parce que les SUV, c'est quoi?
Ce sont
les nouveaux espaces.
Je vais pas devenir celle-là.
Mais bien entendu.
Pardon, mais dans une Clio, tu mets 5 personnes.
Attends, laisse-toi parler. Vas-y.
Si. Tout le monde sait, toutes les familles te disent que, et moi, tous les amis qui ont des enfants ont des SUV pour les enfants. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Et c'est la réalité. Et c'est vraiment. Et c'est, les gens n'achètent pas des SUV pour faire les kékés.
Certains.
Bon, je peux terminer la phrase?
Oui, pardon.
Avoir une Dacia, c'est pas un truc de kéké.
Les SUV, c'est pratique quand t'as des enfants. Mmh. Et après, t'as la mairie de Paris qui va dans une école maternelle à côté de chez moi, où t'as les gens, le PS qui manifeste contre les fermetures de classe. Bah ouais, parce que les gens quittent Paris, parce que les gens ne peuvent plus vivre à Paris. Quand t'as des enfants, c'est terrible de vivre à Paris. Et donc, en plus, si maintenant tu leur mets des taxes sur les voitures qu'ils utilisent pour faire déplacer leurs enfants, voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'ils créent des choses et après, ils se plaignent des conséquences. Donc, c'est totalement ridicule. Le SUV, c'est pratique pour beaucoup de familles. Et comme tu l'as dit, la Dacia et le SUV Dacia est très très vendu. Et c'est pas les riches qui achètent.
Là, t'as inversé le raisonnement. T'es en train de dire que parce qu'il y a une taxe sur les SUV, on ferme des écoles. C'est l'inverse.
Non.
C'est l'inverse. Actuellement à Paris, oui, c'est vrai qu'on ferme des classes, on ferme des écoles.
Parce que les gens partent de Paris.
Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une taxe sur les SUV.
Ils partent de Paris parce que c'est compliqué d'avoir des enfants.
Ne dis pas que c'est
contre les enfants à Paris.
C'est compliqué d'avoir des enfants aujourd'hui à Paris.
Mais c'est pour ça que j'en
sors. Bon, Pierre Rondeau, vous qui êtes parti de Paris, justement.
Oui, mais pas pour des raisons. Non, mon Dieu, ils ont mis une taxe sur les SUV, je vais partir de Paris. C'est pas pour ces raisons-là, donc c'est absurde de le dire.
Non, attends, juste simplement, sur la
question au-delà de la question de la pollution et taxer les SUV, c'est aussi la question de la gestion de la ville de Paris, qui a une dette qu'elle doit rembourser, et elle passe par des outils fiscaux, en l'occurrence celui-ci. La problématique qui pourrait se poser, c'est est-ce que c'est constitutionnellement possible d'aller cibler spécifiquement au poids, au kilogramme, sur une taxe qui existe déjà, sur le malus écologique pour les véhicules de plus de 1,8 tonnes.
C'est très bien d'ailleurs.
Ce qui existe déjà. Est-ce qu'ils auraient le droit, la ville de Paris, de rajouter une taxe spécifiquement sur les Parisiens et qui aurait une forme de discrimination entre celles et ceux qui vivraient en banlieue ou en province et qui ne seraient pas taxés, et ceux qui vivraient à Paris qui seraient taxés. Premier point, je rappelle qu'on a supprimé la taxe d'habitation, et c'est finalement pour en rajouter une et pour taxer les Parisiens et laisser faire les non-Parisiens. Là-dessus se pose la question de la constitutionnalité de cette mesure, et aussi se pose, surtout et avant tout, la gestion de la ville de Paris. Qu'elle en vienne à réfléchir à des nouveaux moyens de fiscalisation, c'est qu'elle n'arrive pas à gérer son budget. On dit notamment
que d'autres villes pourraient y venir, en fait. On dit,
elle doit dépenser 1 milliard pour les transports en commun, pour le Grand Paris. Je suis désolé, le budget du Grand Paris, c'est pas la ville de Paris, c'est aussi toute l'île de France.
Mais là,
c'est 35 milliards. Donc, ne pas être capable de pouvoir gérer 1 milliard sur les 35 milliards d'euros et être obligé de passer par une taxation, je trouve ça absurde.
Je voudrais qu'on prenne Louis en ligne. Louis qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour, Louis.
Bonjour.
Louis, vous roulez en SUV?
Oui, c'est mal.
Bah, écoutez, je sais pas si c'est mal, mais ça risque d'être taxé quand même.
Alors, effectivement, ce que je disais à votre collègue, moi, je suis ex-parisien, D'accord. Et c'est un petit peu notre chère mère, ex-mère, Mme Hidalgo, qui m'a forcé en fait à acheter un SUV à l'époque sur Paris.
Ah bon?
Parce qu'il y avait tellement de travaux. Il y avait tellement de
ah ouais.
C'était vraiment le bordel partout dans Paris. Je crois qu'il y a pas.
C'est toujours.
Oui, je sais. J'y vais régulièrement. Et en fait, bah, j'avais besoin pour passer les poules, pour passer les trottoirs, pour passer.
Ah ouais, non, d'accord.
Mais... Il y a plein de gens qui vivent à Paris sans SUV.
Allez-y.
Alors, pardon.
Allez-y, Louis.
Oui, donc c'est pour ça que j'étais passé sur un SUV. Après, blague à part, c'est un véhicule qui est étant sur patte, qui a un confort de route qui est plus agréable de façon sécuritaire. Pour ceux qui ont la possibilité d'être sur du 4 roues motrices, ça n'a pas de comparaison avec un véhicule classique. Et puis, quand vous avez des enfants, bah, il faut de la place. Et quand vous avez des enfants avec des poussettes, bah, il faut un grand coffre. Bah, et puis derrière, dernier élément, on parle des SUV qui sont très lourds. Vous prenez une très grosse berline, peu importe le constructeur, on est sur des poids quasiment équivalents.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai, là vous avez raison Rémi.
La Tesla, qui est tant vantée, est certainement l'une des voitures les plus lourdes comparées au SUV. Ah bah oui, elle a une tonne 8 à peu près, une tonne 9, une Tesla basique. Et un SUV, le poids moyen d'un SUV, c'est on est à quasiment une tonne 5.
C'est ça, donc en fait c'est un faux débat, les SUV, c'est plutôt les grosses voitures.
Oui, mais on est d'accord que la taxe prévue, et comme pour le malus écologique, c'est sur le poids, c'est pas spécifiquement sur les SUV.
Absolument.
Oui, mais on parle
de SUV, mais la Tesla sera aussi taxée.
Et c'est sûr que les familles seront pénalisées, parce qu'encore une fois, on parle de Paris, mais ça va. Évidemment, vous pensez bien que si ça arrive à Paris, il y a d'autres villes. Vous voyez Grenoble, vous voyez Bordeaux,
mais rappelons aussi que. Non, mais attendez, rappelons que c'est aussi. Il y a aussi, heureusement, l'aval populaire, le vote populaire. Si Anne Hidalgo veut rester maire de Paris, au bout d'un moment, elle devra réfléchir à des mesures démocratiquement acceptables. Et à ce niveau-là, je ne suis pas persuadé que les Parisiens soient partisans d'une telle proposition.
Merci Louis, en tout cas, d'avoir été avec nous. On est avec Bruno également, qui nous appelle de Bergerac. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et Bruno, vous aussi, vous roulez en SUV. Vous n'avez pas d'enfant pourtant.
Alors, je n'ai pas d'enfant. Je vous explique. Moi, je suis artisan plaquiste. Je vais tous les jours, je fais 200 km par jour aller-retour pour aller travailler sur Bordeaux. Je n'ai pas pris de fourgon parce que justement ça pollue trop, c'est pas pratique pour se garer et tout. Donc je loue un SUV chez Leclerc, pour pas citer de marque. Alors c'est un C5 Aircross, hein, c'est pas un gros 4x4.
D'accord.
Ça me permet de mettre mes outils. Et pour aller me promener le week-end, ça va très bien aussi. Par contre, c'est critère 2, donc ça ne pollue absolument pas. Et je ne vois pas en quoi ça gêne de rouler en SUV. Et si ça arrive à Paris, ça va arriver à partout ou pareil.
Bah
à
oui,
Bordeaux, on a un maire écolo aussi. Donc après, moi, je fais comment pour aller travailler sinon? Je veux dire, je peux pas aller bosser avec une Clio quoi, ou même une voiture électrique. Je fais 1000 km par semaine minimum.
Et oui, donc pour vous, en fait, il n'y a pas d'autre choix. C'est ça que vous dites, Bruno.
Ah, moi, c'est le gabarit qu'il me faut. Alors après, je ne fais pas le kéké avec mon SUV parce que c'est un C5 Aircross.
Oui. Hein,
donc ça fait plutôt papy, on va dire.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas un argument de drague. C'est ça que vous voulez dire.
Non. Puis de toute façon, la voiture, c'est pas fait pour ça. C'est plutôt la carte bleue pour aller draguer.
Oh non. C'est la journée internationale.
Bruno,
là, il y a Loumir Laprec en train de faire un AVC. Non, je vous assure, vous pouvez pas. Non, Bruno, là, on peut pas faire ça. Mais en tout cas, on a bien compris votre propos. Merci beaucoup, Bruno. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des utilitaires, Rémi.
C'est une des questions qui se posent. On n'a pas encore de réponse, mais c'est une des questions qui se posent pour les utilitaires, pour les professionnels.
Usine à gaz.
De gros véhicules.
Usine à gaz.
Pardon, mais je suis un peu hallucinée par ce débat. En fait, il y a quand même la Convention citoyenne pour le climat, donc je rappelle, 150 citoyens et citoyennes tirés au sort, qui font des propositions, qui disent oui, il faut taxer les SUV. Pourquoi pas? Parce que ça leur fait plaisir, mais parce qu'on sait que c'est une mesure pour l'intérêt général. Parce qu'on sait que le SUV, ça pollue plus qu'une un autre type de voiture. Donc en fait, il y a
mais
forcément.
Mais quand on a 4 enfants, en fait, on demande à la maman d'avoir une Clio et on peut pas d'avoir une Clio.
Avant, il n'y avait pas de SUV. Je rappelle que le nombre d'enfants moyens en France, c'est moins de 2 enfants. Donc en fait, des familles avec 4 enfants, il y en a pas beaucoup. C'est pas la majorité des gens. Aujourd'hui, quand les ventes de SUV explosent, ça n'est pas parce qu'il y a des familles de 4 enfants. C'est parce que il y a des pubs qui ne sont pas régulées pour nous dire que acheter des SUV c'est super et ça va faire nous des super consommateurs et des super personnes. Les pubs à la télé.
Mais en fait, tu fais quoi de la Dacia?
Mais en fait, encore une fois, c'est pourquoi est-ce que les gens ils achètent une Dacia? Parce qu'on leur a dit c'est super d'avoir un SUV.
Non, parce que c'est pas cher en fait.
Non, mais c'est pas cher par rapport.
C'est la voiture la moins chère
dans les SUV.
Ouais, mais c'est
non,
vrai.
C'est
que...
la voiture la. Ouais, oui.
C'est... Oui. Bah, non, mais... voilà. Bah non, mais donc en fait, pardon, mais avant, les gens vivaient très bien sans SUV. Maintenant, c'est devenu
très bien sans
la grande mode.
Hein,
oui, non, mais d'accord. Ben bah, alors. Non, mais je dis juste que c'est pas essentiel. Moi, j'ai grandi avec une Twingo, pardon, mais on a toujours réussi à mettre une poussette et un lit bébé dedans. Ça a jamais posé de problème à personne. Des gens, ils prenaient leur voiture pour aller.
Tu auras remarqué que plus ça avance,
on est tous à consommer aussi toujours plus. Et on vit, je le rappelle, je suis désolée, ça n'est pas moi qui fais les règles, sur une planète avec des ressources finies. Et on ne peut pas consommer toujours plus, toujours plus gros. Parce que maintenant, parce que les lits bébés et les poussettes, elles sont plus grosses, il faut des voitures qui sont plus grosses. Et puis après, il faudra des plus gros parkings. Et puis
les gens sont plus gros aussi.
Non, mais j'ai l'impression d'être la casseuse d'ambiance permanente. Moi qui vais devoir vivre aussi et vos enfants sur cette planète. Et je pense que si on n'arrive pas à se dire, venez, on achète une voiture un peu moins grosse, qu'est-ce qui va se passer quand le débat, ça va être sur la gestion de l'eau et la gestion de la nourriture? Moi, je dis ça pour qu'on n'en arrive pas là.
Très bien.
Très rapidement, il y a encore beaucoup d'idées reçues. On vient d'entendre avec notre auditeur à l'instant il disait, moi, je ne pollue pas du tout, j'ai une critère 2 avec un SUV. Le problème, c'est que la Tesla, par exemple, elle est critère 1 pour le modèle S, par exemple. Alors, le seul véhicule est extrêmement lourd et pollue énormément.
Oui, enfin, il y a un moment où, excuse-moi Rémi, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire qu'on nous dit,
on est bien d'accord.
On te dit, t'achètes une hybride, c'est génial. Ben, on te dit, bah non, c'est nul. On te dit, t'achètes une Tesla, c'est formidable.
On
te dit, c'est nul.
On est totalement d'accord.
On est entièrement d'accord.
Très rapidement.
Il existe déjà le malus environnemental. Pourquoi rajouter une usine à gaz à un phénomène qui existe déjà?
Exactement. Pierre Chasseret, bien sûr, est notre invité sur ce débat. Oh, mais quel plaisir. Pierre Chasseret, qui est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Ça va, Pierre?
Non, Estelle, ça va pas du tout.
Je savais, Pierre, bien sûr. Vous n'êtes pas content.
Ça peut pas aller parce qu'avec ce que je viens d'entendre de la part de Lumière Laprès, j'ai envie. Je me dis qu'il y a deux choix. Elle parle avec un tel aplomb, en fait, avec une telle certitude dans ce qu'elle dit.
Mais ça s'appelle la science, monsieur.
Oui, alors la science, on en parle deux minutes. Mais
oui, allez-y, sans problème. Le rapport du GIEC.
Bon, écoutez. Alors, Pierre, allez-y, après Lumière vous répondra.
Merci. On y va et ensuite vous me répondrez, si vous pouvez encore répondre. Alors déjà, vous me dites, ma chère Lumière Laprès, que les véhicules sont plus gros, qu'un SUV, c'est plus gros. Ok, alors je vais vous faire un petit peu d'histoire, parce que c'est nécessaire. Est-ce que vous savez pourquoi les véhicules ont gagné 21% en hauteur et 14% en largeur depuis 1960?
Pour la sécurité.
Allez me l'expliquer.
Ben bien sûr, je vais vous l'expliquer, puisque vous ne le savez pas et vous parlez. Alors, ils ont gagné 21% en hauteur pour une raison toute simple. C'est que la moyenne, la taille des Français, est passée d'1m68 pour les hommes à 1m77, par exemple. Avec des Français qui font 10 cm de plus, fatalement, il n'est pas choquant d'avoir des véhicules un petit peu plus haut. On va passer à la largeur parce que ça aussi, ça vous embête un petit peu, les véhicules qui SUV qui sont un petit peu plus larges. Il vous a pas échappé que dans la voiture que vous aviez peut-être quand vous étiez petite, on était petit, il y avait à l'arrière une banquette arrière. Que cette banquette a disparu au profit maintenant de sièges, voire de fauteuils à l'arrière. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a prévu les véhicules en largeur pour pouvoir les équiper de sièges auto. Vous savez, les sièges auto, les dispositifs de retenue qui sont prévus pour les enfants et obligatoires, ont donc nécessairement élargi la taille des voitures. Voilà donc la deuxième explication, la largeur du véhicule. On va passer maintenant à la longueur du véhicule, si vous le voulez bien. Les véhicules ont augmenté depuis 1960 en longueur. Vous avez tout à fait raison, Madame Laprès, de 3 cm. 3 cm en 63 ans. Je ne pense pas qu'on soit sur une augmentation démesurée. Ensuite, vous me dites, le SUV, c'est incohérent, on n'a pas besoin d'un SUV pour rouler dans Paris. Mais tout dépend de vos besoins. En fait, le SUV a remplacé quoi? Est-ce que vous voyez aujourd'hui beaucoup de monospaces qu'on voyait dans les années 90?
Non.
De type Renault Espace.
Juste pour aller dans le sens de Lumière, Pierre, ce qui est vrai. C'est pas ça. Mais quand vous êtes à Paris, vous voyez énormément de gens seuls des SUV. Alors évidemment, moi aussi, je me fais l'avocat du diable et je dis c'est les voitures des familles nombreuses. Certes, mais en fait, c'est pas
vrai. À Paris.
Vous avez beaucoup d'hommes célibataires. Parce que c'est quand même plus une voiture, on va dire, masculine. Vous avez beaucoup d'hommes célibataires qui sont.
Le SUV est surtout promu par une population plutôt féminine d'ailleurs. Ensuite, la difficulté, c'est quand vous avez quelqu'un qui est seul dans sa voiture.
Ouais.
Oui, effectivement, il est seul dans sa voiture. Il est seul dans sa voiture familiale. Au bout d'un moment, quand les Français ont deux voitures dans le foyer, il y en a un des deux qui va prendre la petite, un qui va prendre la plus grande pour aller au boulot, quoi qu'il arrive. Mais ce véhicule dans lequel vous voyez une seule personne dans le véhicule, le week-end, il sert. On va faire les courses le soir. On bouge, on met les gamins dedans, on va à l'école. On a besoin de place. La réalité du SUV, c'est que c'est un faux problème qui a été créé par les écologistes. Ensuite, vous les donnez un
chien. Non, non, c'est pas un faux problème, Pierre.
Nous, on a aussi créé le dérèglement climatique, en fait. C'est sûr.
C'est sûr. Vous voulez pas entendre, mais il n'y a aucun problème.
Ouais, enfin, c'est réciproque. Vous voulez pas non plus écouter et entendre les arguments écologiques.
Moi, quand j'ai affaire à des gens qui sont dans le militantisme écologiste.
Et vous, c'est pas votre travail de logique.
Attendez, stop.
Et qui refuse de voir une réalité, eh bien, au bout d'un moment, je la rétablis. Oui. Je viens de vous expliquer pour la longueur, la largeur, la hauteur. Je peux pas faire plus simple.
Mais Pierre, c'est pas ça le souci. Le souci, Rémi le disait, c'est le poids. Et d'ailleurs, il y a un souci parce que sinon, ces véhicules ne seraient pas taxés à la base.
Alors, on continue. On passe au poids maintenant. Parce que le poids, c'est intéressant. Pourquoi les véhicules d'aujourd'hui sont un peu plus lourds et nécessairement plus lourds que les véhicules d'avant? Eh bien, dans des véhicules qui sont légèrement plus larges. Dans des véhicules qui sont légèrement plus hauts. Déjà, vous avez nécessairement un petit peu de poids en plus. Ensuite, on va ajouter quoi? On va ajouter aussi tous les dispositifs qui devraient plaire à nos amis militants écologistes. C'est tous les dispositifs qui ont été ajoutés sur les véhicules notamment et qui ont entraîné aussi une surcharge de poids au niveau des correcteurs d'émissions polluantes.
Mais Pierre, ça je l'entends, mais vous avez aussi... Mais une Clio n'est pas un SUV et vous avez aussi plein de systèmes, mais c'est ça.
Un vélo n'est pas un SUV. En fait, on achète une voiture par rapport à ses besoins. Ce qu'il faut retenir, il faut arrêter de comparer le SUV d'aujourd'hui à un véhicule de la même année, mais qui est un petit véhicule qui ne correspond pas à vos besoins. Si vous avez une famille avec trois gamins...
Pierre, vous savez très bien que c'est pas que le véhicule des voitures des familles nombreuses, c'est pas vrai. Pierre Chasseret, on parle d'une taxe à Paris, pour l'instant c'est la ville de Paris qui la propose, et à Paris il y a des écoles qui ferment, il y a de moins en moins de familles nombreuses. Alors arrêtez de dire que c'est le véhicule des familles nombreuses à Paris, et on parle de Paris, il y a des écoles qui ferment, il y a de moins en moins de familles nombreuses. Vous parlez de science, je vous donne des chiffres, le nombre moyen d'enfants par femme à Paris diminue, il y a des écoles qui ferment, il y a des classes qui ferment. Ne dites pas que c'est le véhicule des familles nombreuses.
Mais cette taxe, elle a vocation à être partout.
Pour l'instant, c'est Paris.
Mais non, mais on parle pas de ça.
On recommence, parce que décidément, vous avez des sérieuses difficultés à comprendre. Paris, c'est pas...
C'est réciproque, Pierre Chasseret.
Mais attendez, je vous explique quand même, parce que maintenant, il va falloir vous expliquer la carte de France. Vous avez Paris et un boulevard périphérique. Mais ceux qui sont dans Paris et qui payent le stationnement dans Paris, à votre avis, c'est qui?
Mais c'est pas sur le stationnement, c'est sur la carte grise immatriculée 75.
Est-ce que ce ne sont que des Parisiens?
Après la question, il faut pas rester sur Paris, c'est pas ça la question. Exactement. La question c'est, est-ce qu'il faut instaurer une taxe SUV partout en France? Si les SUV polluent, ils polluent à Paris, mais ils polluent ailleurs.
Voilà, on donc termine sur la pollution parce que j'ai tout fait, j'ai fait longueur, largeur, hauteur, le poids aussi. Maintenant on va passer sur la pollution. La pollution, ce qu'il faut comparer, c'est le véhicule qui sort aujourd'hui en production et ses émissions polluantes à son équivalent d'il y a 10 ans. Son équivalent d'il y a 20 ans, son équivalent d'il y a 30 ans. Le véhicule que remplace le SUV d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelque chose entre la berline et le monospace, à peu près. C'est un peu ça, on s'accorde à dire que c'est ça. Les émissions polluantes d'un SUV moderne qui est vendu aujourd'hui sont entre 1000 et 100 000 fois inférieures en émissions polluantes par rapport à son homologue d'il y a 20 ans.
Parce qu'il y a un changement de motorisation,
c'est vrai. Évidemment. Ben oui, parce que les SUV, les fabricants de SUV savaient très bien qu'ils étaient dans le collimateur et qu'ils auraient dû faire des efforts. Ce sont ceux qui ont fait le plus d'efforts dans le changement de motorisation avec les hybrides et les électriques notamment. Sauf que les batteries pèsent énormément, qu'il faut compter aussi le coût non seulement de la pollution quand le véhicule roule, mais aussi de sa fabrication. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire, en tout cas les agences sérieuses s'accordent pour dire que le SUV reste aujourd'hui un véhicule extrêmement polluant, quel que soit son type de motorisation.
Alors, merci en tout cas Pierre Chasseret d'avoir été notre invité sur ce débat, extrêmement clivant ce débat. Mais on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs, nos téléspectateurs et les internautes sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Taxer plus les SUV, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Rémi?
Touche pas à mon SUV, pour 72% de ceux qui sont bien sur nos réseaux sociaux.
Bah oui, des gens qui ont des familles.
Dans un instant, ce sera RMC s'engage pour vous. On va tenter d'aider Jessica. Jessica, elle est maman célibataire de 7 enfants et elle attend désespérément sa pension alimentaire. On retrouve Amélie Rosic dans un instant.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h31 sur RMC. RMC Story, c'est le moment de vous aider dans Estelle Midi. Voici RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie Rosic, on va tout faire, mais vraiment tout, pour tenter d'aider Jessica. Jessica, c'est une mère solo de famille nombreuse.
Absolument, il ne vous aura pas échappé, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de nos droits à nous, les femmes. Et aujourd'hui, on s'engage pour aider Jessica à faire valoir justement ses droits. C'est une maman solo, vous l'avez dit, elle est à la tête d'une joyeuse troupe de 7 enfants, 4 garçons, 3 filles âgées de 2 à 14 ans. Il faut en avoir quand même du courage. Pour les petits derniers, des jumeaux, oui, doublement du courage. Elle attend désespérément une pension alimentaire du papa dont elle est séparée depuis octobre dernier.
Aujourd'hui, les choses sont très compliquées, surtout que le papa, il est parti en laissant des dettes, et des dettes qui se sont accumulées et que j'essaye de relever doucement. À plusieurs reprises, je lui ai envoyé des messages concernant les papiers qu'il devait faire, mais lui n'a toujours fait aucune démarche de nulle part. Et au niveau de la CAF, le dossier reste bloqué. Je ne pense pas être la seule dans ce cas où des parents séparés sont en très mauvais termes. Aujourd'hui, la CAF, elle ne fait rien pour aider la personne qui garde les enfants.
Mais alors, il y a un truc que je ne comprends pas, Amélie. On n'a pas arrêté de nous dire là, que le gouvernement allait instaurer en fait, une nouvelle loi afin de protéger les mamans comme Jessica. C'est-à-dire que normalement, les pensions alimentaires sont désormais versées automatiquement. Ça marche
alors,
pas alors?
Alors, si, c'est le cas. Effectivement, depuis un an, le versement, il se fait automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça passe par un service dédié de la CAF. Ça, c'était pour les couples divorcés depuis un an. Et depuis le 1er janvier, ce dispositif, il a été élargi à tous les couples séparés, donc que vous ayez été ou non mariés avant. Et ça, c'est pour prévenir les impayés. Donc, c'est assez simple, hein. La CAF, elle récupère en fait la pension auprès du parent qui doit la verser, et puis elle l'en transmet directement auprès du parent qui a la charge des enfants. C'est un changement qui est quand même majeur, qui était réclamé de longue date par des collectifs, toutes les associations féministes. Quand on sait que 30% des ex-conjoints ne payent pas ou pas totalement les pensions alimentaires, et qu'évidemment la majorité des parents solos, ce sont des femmes. Sauf que pour en bénéficier, encore faut-il que la pension, elle était fixée par la justice. Et dans le cas de Jessica, eh bien, le père, il refuse toujours de faire les démarches nécessaires.
Ça paraît aberrant, Amélie, mais quels sont les recours de Jessica dans ce cas?
Alors, ce qu'elle doit faire, c'est saisir le juge aux affaires familiales, et ça, ça peut prendre plusieurs mois. Ça prend au moins 3 mois, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7, 8, 1 an, en fonction des juridictions. Les juridictions, par exemple, dans Paris ou Île-de-France sont plus tendues qu'ailleurs, on le sait parce que c'est là où le couple se sépare le plus. Et en attendant qu'elle puisse être reçue par le juge aux affaires familiales, que la pension alimentaire soit fixée, elle peut percevoir ce que l'on appelle l'allocation de soutien familial. Ça, c'est 185 € par mois et par enfant. C'est versé, là aussi, par la CAF. Sauf que, là encore, les démarches, elles sont liées, en fait, au beau vouloir de l'autre parent. Violaine de Philippi Abatté, porte-parole de l'association Oser le Féminisme. Et en fait, elle dénonce un système dans lequel, une fois encore, les mères solos sont tributaires des ex-conjoints. Écoutez.
Dans la gestion administrative et ou judiciaire des questions qui touchent les femmes, on est traité comme un numéro de dossier, que ce soit au tribunal ou à la CAF. Donc effectivement, il y a un vrai travail de formation à faire, mais toujours pareil, on manque de moyens. C'est pour cela qu'on peut pas tout imputer aux agents de la CAF, puisqu'ils sont aussi en sous-effectif et ça fait parfois beaucoup de dossiers à gérer.
Bah moi je vois le truc. Amélie, est-ce que vous avez réussi à aider cette maman?
Alors, la première bonne nouvelle, c'est que notre auditrice, elle a quand même fini par obtenir son allocation en décembre dernier. Donc ça veut dire que voilà, donc ça veut dire que ça a été versé en janvier. Depuis décembre, elle touche cette allocation. Donc vous l'avez compris, 185 € par mois pour chacun de ses deux jumeaux, donc deux fois 185 €. Sauf que pour les mois d'octobre et novembre, parce que vous l'avez compris, elle est séparée depuis le mois d'octobre. Pour les mois d'octobre et novembre, elle n'avait toujours rien, et la CAF a fini par nous répondre il y a à peine une heure. Malheureusement, pas sur la question, toujours pas sur la question de ces 2 mois d'allocation. Donc, évidemment, on va les relancer. Vous savez que vous pouvez compter sur nous pour le faire.
Oui, on peut compter.
Voilà, le ministère de la Santé, nous l'avons également sollicité de son côté sur l'aspect plus général s'agissant de ces démarches. Et il nous explique que 200 nouveaux agents des CAF vont être recrutés dans les mois à venir, recrutés et formés pour faire face à l'augmentation des dossiers à traiter. Parce que vous l'avez bien compris, ce système automatisé pour prévenir les impayés de pensions alimentaires, il est ouvert à tous les couples séparés, qu'ils aient été mariés ou non, depuis le début de l'année.
D'accord.
Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que mécaniquement, il y a une augmentation du nombre de dossiers à traiter. Et on a le chiffre, multiplication par 4 depuis le début de l'année. Donc, Donc, 200 nouveaux agents des CAF recrutés et formés pour faire face à une multiplication par 4 du nombre des dossiers à traiter. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Je ne suis pas sûre que quelqu'un puisse le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer de suivre la question.
Et ça va quand même dans le bon sens.
Évidemment, voilà. Évidemment, ça va dans le bon sens. Et puis, c'était un combat qui était mené depuis vraiment plusieurs années. Parce que pour faire face à ces impayés, il faut savoir quand même que, en général, la pension alimentaire, elle représente entre 18 et 20% du revenu d'un parent solo, majoritairement. Majoritairement des mamans. Donc c'est vraiment énorme.
Et on va rappeler, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais 30% des hommes payent mal ou ne payent pas cette pension. Et ça met en difficulté énormément de femmes.
Soit pas en totalité, soit ils payent pendant 2 mois, puis ils vont pas payer pendant 2 mois, et puis ça va revenir le 6e mois. Donc pour faire ses comptes, quand on a un budget serré, c'est quand même pas simple. Ouais, exactement.
On parle de quoi demain, Amélie ?
Eh bien, demain, comme ça arrive de temps en temps, les dossiers sont très compliqués, et donc je ne suis pas en capacité de vous le dire. À ce stade.
Ah, très bien.
Donc, je garde la surprise car nous sommes en stand-by, mais sur deux excellents sujets. Dans tous les cas, il faudra nous écouter.
Et bien, il y en aura un jeudi et un vendredi.
Exactement.
Merci beaucoup, Amélie Rosy. RMC s'engage pour vous tous les jours dans Estelle Midi aux alentours de 14h30. Et si vous aussi, vous avez un problème, un souci, vous nous envoyez, bien sûr, tout ça à l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On va vous parler du cas d'une. Une femme espagnole qui a obtenu gain de cause, ça va vous faire bien plaisir, nous verrons après. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h. Et tout de suite, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commente ces immanquables avec Pierre Rondeau, Loumière Lapray et Fred Hermel. Et nous allons commencer, Rémi, et ça va faire bien plaisir à Loumière Lapray, avec la victoire du jour.
Ça se passe en Espagne. Un tribunal espagnol donc vient de condamner un homme à payer plus de 200 000 euros à son ex-femme pour l'avoir cantonné durant plus de 20 ans aux tâches ménagères à leur domicile. La justice a considéré que ces 200 000 euros correspondaient à un salaire minimum pour la période courant de juin 1995 à décembre 2020. Date de la séparation du couple.
C'est intéressant que vous me disiez que ça va me faire plaisir. Alors oui, ça me fait plaisir pour cette femme, mais je tiens à dire que c'est pas parce que trop bien, une femme a j'ai niqué qui me vient à l'esprit, mais bon,
a obtenu
gain de cause face à un homme et surtout s'en est vengée. En fait, c'est pas ça notre projet.
Elle dit j'ai travaillé et je mérite.
Mais donc du coup, c'est pas parce qu'on a battu un homme et on est content. C'est pas ça le truc, parce que parfois on est un peu présenté comme un groupe de femmes, le mouvement féministe, qui voudrait se venger des hommes, alors que pas du tout.
Mais là, c'est pas ça. C'est une avancée, ça va permettre à plein de femmes de faire valoir leur droit de femme au foyer. C'est
exactement
ça,
et en fait du coup je trouve ça vachement intéressant, parce que ça veut dire que pour une fois on reconnaît que le travail domestique c'est du travail, et que par ailleurs cette femme n'avait pas fait ce travail domestique et donc elle n'avait pas participé à l'économie de la maison, elle aurait pu gagner des sous à côté, mais que en effet il y
aurait
moins de choses.
Femme de ménage, donc
c'est pour ça que je trouve ça vraiment super, parce que ça veut dire que la justice commence aussi s'attaquer à ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Et pour nous, ça a toujours été difficile. C'est la même chose sur les violences conjugales. On disait un peu ce qui se passe derrière une porte close reste derrière une porte close. Les gens lavent leur linge sale en famille, etc. En fait, non, ce qui se passe à l'intérieur du foyer, c'est extrêmement politique. Et nous, on l'a toujours dit, l'intime est politique.
Est-ce qu'il faut finalement instaurer un revenu pour les mères au foyer ? On a déjà parlé dans cette émission, ça se fait dans certains pays, Frère
Hermel. C'est une idée d'extrême droite. Voilà, la femme au foyer, c'est l'extrême droite.
C'est-à-dire ?
Bah oui, bien sûr, c'est les promotions, la femme au foyer qui est à la maison. Bah oui, non, mais c'est vrai.
Et l'homme
au
foyer ?
Mais non, mais
c'est l'homme au foyer.
Non, mais c'est le problème, il est là. C'est que derrière de belles idées comme ça qui ont l'air bien, il faut voir la réalité des choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi je trouve ça terrifiant. Terrifiant parce que ça veut dire que la femme, elle est condamnée à rester chez elle.
Non, elle n'est pas
condamnée à travailler dehors. Bah si, si la femme, elle est rémunérée pour être chez elle, ça veut dire qu'on
Non, elle n'est pas rémunérée. Elle n'est pas en Allemagne, ça marche par exemple. Elle n'est pas rémunérée pour rester chez elle. Elle est rémunérée pour éduquer ses enfants. C'est un peu difficile.
Moi, je trouve ça très bien. Ça a l'air très beau comme ça. Sauf que dans les faits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes ne vont plus sortir pour aller travailler dehors. Moi, je trouve que c'est un frein à l'emploi des femmes et à l'égalité.
C'est une période donnée. Et après, t'as les congés parentaux qui sont comme ça. Tu peux faire le choix aujourd'hui de prendre un an pour éduquer ton gars. la main.
Vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats.
Bah oui.
Bah, en Allemagne, ça marche bien.
C'est vrai qu'en Allemagne, pour le coup, non, mais c'est vrai qu'en Allemagne, le système, notamment d'accès au marché du travail, est très sexiste. La plupart des femmes sont dans des temps partiels subis. L'assurance maladie est encore liée au job de l'homme la plupart du temps.
Et en Allemagne, ça n'a pas été fait pour faire plaisir aux femmes. C'est une politique nataliste.
En fait, c'est ça.
Et donc, moi, c'est les entreprises qui payent.
C'est là que je pense que, en fait, tout dépend de l'intention de pourquoi on met en place ce genre de politique publique. C'était pour garder les femmes à la maison, bien évidemment, que c'est un retour en arrière.
Parce que des belles idées, après, il y a la pratique.
Mais tu peux aussi dire.
Pierre Rondeau.
Non, moi je vais avoir un focus plutôt théorie économique sur l'idée qu'il faut reconnaître, et ce que tu as dit effectivement, il faut reconnaître la valeur créée au sein du foyer, à l'intérieur du foyer. Je pense notamment à un agrégat très important en économie qui est le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut prend uniquement en considération les valeurs monétaires, la création de richesse dans un pays. Mais tout ce qu'on va faire à travers l'éducation de l'enfant, à travers les tâches ménagères, tout ce qui est fait à l'intérieur du foyer n'est pas considéré. Tu l'as dit d'ailleurs, très bon exemple, payer une femme de ménage soutient le PIB. Laisser sa femme ou son mari faire le ménage ne soutient pas le PIB. Alors que ça crée la même richesse. Donc au-delà de rémunérer ou pas la femme ou l'homme au foyer, ce qu'il faudrait d'un point de vue strictement macroéconomique sur la comptabilité nationale, c'est prendre et reconnaître la création de richesse au sein du foyer. Je vais donner juste un exemple en particulier qui me fait rigoler. Le père fondateur de l'économie moderne, Adam Smith, c'était un vieux garçon qui était nourri et logé par sa mère. Sa mère a tout fait à sa place. Elle l'a nourri, elle l'a logé, il a pu, grâce au travail de sa mère, écrire les grands livres qu'on a aujourd'hui en économie. Mmh. Parce qu'il ne travaillait pas, mais cette richesse était apportée par sa mère au foyer, qui elle n'était pas rémunérée, qui ne créait pas de richesse. Donc il faudrait simplement, au-delà de rémunérer, comme tu l'as dit, juste reconnaître cette valeur.
On va passer, Rémi, à la menace du jour.
Une certaine confusion règne chez les élus du groupe Renaissance, celui de la majorité présidentielle. Pourquoi ? Parce que, selon certains médias, le groupe parlementaire, donc la direction du groupe, aurait voté lundi une mesure qui dit que ceux qui voteront contre la réforme des retraites ou s'abstiendront de se prononcer sur le texte seraient exclus du groupe parlementaire Renaissance. Ils perdraient également leur place en commission, rétropédalage ou pas, je ne sais pas, la direction du groupe fait savoir là à l'instant qu'elle n'a jamais pris cette décision. Il n'y aura pas d'exclusion, mais elle demande quand même aux députés Renaissance de faire preuve de loyauté.
Oui, donc ça revient un petit peu au même. Ce serait.
C'est normal. C'est normal. Enfin, toi, t'es élu grâce. Attends, excuse-moi. T'es élu sur un programme. Et depuis le début, la réforme des retraites est un programme d'un parti. Toi, tu as été élu.
Pas élu sur liste.
Tu as été élu. Enfin, non, mais excuse-moi, mais t'es investi quand même. C'est investi Renaissance. Tu partages les idées du président de la République. Sinon, tu ne formes pas partie de sa majorité. Exactement. Donc, ça me paraît normal. Si toi, tu n'es pas d'accord avec les réformes des retraites, eh ben, tu peux te présenter à la députation.
Pardon. T'as ta liberté de penser.
Oui, mais enfin, là, on n'est pas sur les questions de, par exemple, je sais pas, des questions liées, par exemple, à l'euthanasie ou des trucs comme ça. Où là, il peut y avoir une sorte d'objection de conscience sur le. Là, il y a un programme électoral. Tu es défendu pour un parti qui soutient un gouvernement et un président de la République qui a annoncé clairement la couleur. Si toi tu ne voulais pas voter cette loi, tu te présentais pas sous la bannière de ce parti. Donc ça paraît tout à fait normal qu'un député vote les lois proposées par sa majorité.
Moi ça me paraît pas normal, c'est-à-dire que plus de libre arbitre, c'est quand même un peu embêtant.
Tu te présentes tout seul, mais tu te présentes pas sous la bannière de ce parti.
Mais non, mais tu peux aussi, au travers de tous les arguments qui nous ont été donnés depuis quelques semaines, finalement c'est pas une très bonne réforme. Comme beaucoup de Français
les amis, l'exemple de Barbara Pompili qui avait trahi les écologiste pour aller chez Macron, qui est devenu ministre d'écologie, qui a fait beaucoup de mal, les néonicotinoïdes, c'est elle, par exemple, et qui maintenant dit ah bah non, finalement, moi je veux plus voter, etc. Enfin, il y a un opportunisme assez dégoûtant.
Lumière d'après, on fait quoi avec ces députés qui voteraient contre la réforme des retraites?
Je suis un peu partagée. Je trouve que vos deux points de vue se reçoivent. Moi, je peux comprendre le côté de la loyauté. De toute manière, on sait quand même depuis 2017 que les députés macronistes n'ont pas une grande marge de manœuvre. On l'a vu très vite en 2017, notamment sur la loi asile et immigration, où il y a eu plusieurs députés ça s'appelait la REM à l'époque, qui ont dit je suis pas à l'aise, et à qui on a dit tu te tais et tu votes.
Sauf que c'est beaucoup mieux chez les filles ici.
Franchement, encore une fois,
le parti est connu pour sa discipline.
en tout cas, il y a des partis qui ont plus ou moins une tradition de la discipline. ELV, par exemple, beaucoup moins, les écolos. Oui. Mais pour autant, je trouve ça intéressant, en effet, que de dire c'est aussi le débat parlementaire et la rue qui permet aux gens d'évoluer. Donc là, je ne sais pas quoi dire. Je trouve que les deux sont possibles.
Ouais, mais toi, t'es électeur Renaissance. Tu votes pour un député parce que tu veux que cette loi des retraites passe.
Mais toi-même, tu peux changer d'avis.
Mais tu votes aussi pour un député parce que c'est des élections locales quand même et parce qu'il est bon pour ta circonscription et parfois te fous totalement des étiquettes.
Tu votes pour des idées.
Tu peux être investi effectivement par le parti de la majorité, par Emmanuel Macron, par Renaissance. Mais moi, je reprends ce que tu disais par rapport au LV avec les courants et l'absence de discipline. Moi qui ai milité effectivement au PS, je considère qu'il y a trois aujourd'hui, il y a trois partis aujourd'hui qui permettent d'assurer le débat interne, les courants. L'opposition, le PS, ELV et les Républicains. L'AFI, RN et LREM, c'est juste, on suit doctement le chef, le leader. Et on a interdit de pouvoir changer d'opinion, changer d'avis, au-delà des arguments. Ça fait trois mois qu'on en parle. En trois mois, tu as pu changer, tu as pu évoluer. Exactement. Et là, on te dit non, parce que c'est le chef qui l'a imposé, tu te dois de te plier à ses exigences.
Élu pour ça.
Non, mais tu peux changer, Fred. Tu peux effectivement écouter ce qu'il se dit et changer.
Juste puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, une petite mise au point d'Elisabeth Borne.
Oui, on reparle de ces bras d'honneur effectués hier par Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée, à l'intention du président LR, du groupe LR à l'Assemblée. Il y avait un débat sur l'inéligibilité pour ceux qui seraient condamnés pour violence. Elisabeth Borne a fait savoir aujourd'hui au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti que son comportement n'avait pas sa place dans l'hémicycle. Voilà, c'est ce qu'on apprend de l'entourage de la Première ministre. Pour l'instant, la chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'un échange téléphonique avec son ministre. Voilà ce que dit l'entourage de la Première ministre.
Ah, c'est pas une déclaration. Si c'est tout, c'est quand même pas grand-chose.
Non, mais l'entourage fait savoir.
Oui, mais c'est pas une déclaration officielle.
Non, tu vas pas dire je vais taper sur les doigts.
Oui, oui.
Ça paraît compliqué.
Ça pas être. Je pense pas que ça a dû être très très sévère.
Non, un petit recadrage.
Éric,
c'est pas très bien. Tu seras privé de goûter. Rémi Barret, on termine avec le match du jour,
Évidemment. Croyez-vous encore dans les chances du PSG?
Oui.
Huitième de finale, retour de la Ligue des Champions. C'est à vivre ce soir à 21h, à partir de 21h sur RMC, RMC Sport 1. À l'aller, il faut le rappeler, les Parisiens s'étaient inclinés 1-0 face au Bayern. Mais là, ils jouent chez les Bavarois.
Ils vont le faire, Pierre Rondeau ou pas?
Moi, je n'y crois pas. Mais après, ils le font. Je serai le premier content. Mais là, concrètement, aujourd'hui, si on pose la question, je n'y crois pas. On a été, enfin je veux dire, ça fait 12 ans maintenant que les Parisiens QSI ont du mal en mois de février-mars en Ligue des Champions. Les supporters parisiens sont un peu habitués. J'ai même le sentiment qu'il y a une espèce de d'inconscience collective au sein du club et des joueurs en se disant que finalement les huitièmes ou les quarts, c'est l'objectif, c'est finalement le plafond. Là, en l'occurrence, jouer à Munich et avec un petit écart.
J'ai envie
d'y croire, mais malheureusement.
Je suis très amoureuse d'un homme qui est très fan du PSG. Après, il est de très mauvaise humeur si le PSG gagne. Donc, j'aimerais. Kiki,
qui a la télécommande ce soir?
Comment?
C'est la journée de la femme, hein? Qui a la télécommande?
Ah bah moi je vais pour être transparente, je vais au ciné et après je le rejoins au match. Donc j'espère que j'arriverai deuxième mi-temps, j'espère que ça sera bien.
Frère Hermel, on y croit, on y croit pas?
Moi je n'ai pas à y croire parce que je n'aime pas le PSG, c'est un résultat, je suis tout à fait neutre, je suis
supporter du journaliste.
C'est un résultat tout à fait remontable, je n'ai qu'un but. Un but marqué là-bas. D'accord. pour que ça reparte à zéro en fait. Donc
exactement.
Donc voilà, c'est faisable. Après, ils sont pas favoris, bien entendu.